prédécesseur à cette session de méditation de toute l'Amérique du Nord. Nous allons demander à notre frère Médard de prier.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour cette journée que tu nous as accordée gratuitement, c'est par ta grâce. Seigneur, nous n'avons rien mérité, mais toi, tu as aimé à nous combler. Nous te rendons grâce pour cela. Seigneur Dieu, nous venons autour de ta table pour manger cette nourriture spirituelle qui vient de toi. Merci parce que tu nous as donné à répondre à cette opportunité. Seigneur Dieu, nous voulons nous confier à toi. Nous voulons nous confier ce moment, Seigneur Dieu, entre tes mains. Nous voulons te confier le modérateur de ce soir, notre bien-aimé, le pasteur Célestin, qui va nous diriger. Mais Seigneur Dieu, avant de commencer de méditer ta parole, nous venons auprès de toi reconnaître notre faiblesse. Tu as vu comment nous avons marché, Seigneur Dieu. Nous voulons que cette rencontre, cette réunion te soit agréable. Nous voulons que toi, tu prennes plaisir à nous. Seigneur Dieu, avec nos manquements, avec nos fautes, Seigneur Dieu, toi, tu n'es pas content de toi. C'est pour ça que nous venons humblement près de toi de demander pardon. Pardonne chacun de nous. Tu connais l'état de cœur de chacun de nous. Pardonne, Seigneur Dieu. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, car sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre les merveilles qui viennent de toi par ta parole. Merci, Seigneur Dieu, aussi de canaliser ce moment. Merci pour toutes les interventions qui vont sortir d'ici, et nous savons que ça viendra de toi. Merci, Seigneur Dieu. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que toi, tu nous diriges. Seigneur Dieu, nous voulons te confier aussi nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en direct à la radio, ou qui vont nous suivre après, Seigneur Dieu. Merci aussi de leur parler, comme toi tu veux nous parler sur le plateau. Béni sois-tu, grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Merci pour la prière, frère Médard. Je vais nous demander, frères et sœurs, de prendre le texte que nous allons méditer ensemble dans le livre de Marc, au chapitre 10, du verset 46 jusqu'à la fin du livre, donc jusqu'au verset 53. D'autres versions s'arrêtent même à 52. Je vais demander à notre sœur Kaba de nous lire le texte, s'il te plaît.
Merci, papa. Je lis en Louis Segon. L'aveugle Bartimée guérit à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec les disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Kaba, pour la lecture.
Merci, papa.
D'autres versions disent que « Va, lui dit Jésus, ta foi t'a guéri. » À l'instant, il retrouve la vue et se joint à l'instant pour le suivre. Voilà, frères et sœurs, une histoire qui est connue beaucoup par les lecteurs de la Bible. Nous nous rappelons que le Seigneur s'est déjà mis en route vers Jérusalem. Hier, nous avons vu combien il a annoncé pour la troisième fois la résurrection, les souffrances, et sa mort et sa résurrection. Et immédiatement après, combien les deux fils de Zébédée ont créé, on dirait, un incident de parcours en cherchant à demander au Seigneur d'être l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et leur demande, le Seigneur a bien compris qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de demander. Et la suite, c'était un enseignement que le Seigneur leur donnait pour qu'ils sachent si quelqu'un qui veut être vraiment un serviteur, qui veut être grand, selon la vue de Dieu, doit être vraiment serviteur et non patron. Mais aujourd'hui, toujours en route vers Jérusalem, il va passer par Jéricho. Cette ville Jéricho, dont nous connaissons beaucoup l'histoire, que ce soit par la prise de Jéricho avec Josué, ou que ce soit par les bons samaritains, cet homme qui quittait Jérusalem vers Jéricho. Et nous connaissons vraiment des grands récits de cette histoire de Jéricho. Mais cet homme va arrêter le Seigneur par sa façon d'insister, sa façon de crier, sa façon de demander l'intervention du Seigneur. Et il va l'obtenir, parce qu'à la fin, le Seigneur va lui dire, tu as la foi, et cette foi, tu guérisses, et il va être guéri. Il va rejoindre le groupe qui est en train de suivre le Seigneur vers Jérusalem. Voilà, en quelques mots, frères et sœurs, de quoi nous allons parler dans ce texte. Deux questions peuvent nous aider à approfondir notre texte ce soir. C'est la question 3 et la question 7. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il personnellement? C'est bien de méditer, mais si les Écritures ne nous parlent pas, ça ne sert à rien de les méditer. Et quand une vérité, une leçon nous est donnée, c'est pour que nous puissions mettre cela en pratique. Voilà, frères et sœurs, quand je regarde mon tableau, je ne vois pas de nouvelles personnes, tous nous connaissons. Comment prendre la parole? L'étoile et le chiffre 2, voilà comment nous pouvons prendre la parole, mais aussi la durée. Nous n'avons pas une durée indéterminée pour intervenir. 2 minutes suffisent pour dire l'essentiel. Frères et sœurs, c'est un texte extrêmement riche. J'aimerais que nous puissions aller verset par verset pour tirer toute la subsistance, tout ce qu'il y a dans le texte concernant ces récits. Voilà, cela dit, nous pouvons maintenant demander la parole en commençant par le verset 46 et aller de l'avant, frères et sœurs. Qui veut se jeter le premier ou la première dans l'eau? Voilà, je vois une main, une demande de parole. Oui, Papa José, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, pasteur. Je suis au verset 46. La ville de Jéricho, tu as déjà dit un mot là-dessus. C'est bien. Mais je vais plutôt parler de Bartimée, le fils de Timée. Bartimée, c'est le fils de Timée. Bartimée était l'enfant de quelqu'un. Il était le fils de Timée, ce qui montre que Bartimée, ce n'est pas une personne imagée, mais c'est quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui avait des parents, et le père était Timée. Et la ville était Jéricho, cette ville historique. Alors, il avait un mal, il ne voyait pas. Il ne voyait pas, par conséquent, il était devenu mendiant. Oui, c'est un homme humilié, un homme diminué, parce que il dépendait totalement de ses parents et même il dépendait des hommes et des femmes de bonne volonté. Le fait d'être appelé mendiant, c'est que ce n'était pas un homme important. Oui, au verset 46, ce n'était pas un homme important, mais nous verrons plus tard. Sur le plan humain, c'était un mendiant. Et on peut prendre cette mendicité pour faire de cela une vertu, dans le sens que nous qui sommes humains, nous sommes tous des mendiants, les mendiants de la vie qui appartient au Seigneur. Sans lui, sur le plan physique et même sur le plan spirituel, nous sommes rien. Nous sommes rien sans Dieu. Comme Bartimée était rien sans les hommes. Voilà, je m'arrête là, bien-aimé.
Oui, merci à José d'avoir vraiment décortiqué cet homme d'une grande nécessité, cet aveugle, ce fils de Timée. Merci beaucoup. Donc c'est pas une parabole, c'est un récit, c'est vraiment du vécu. Une personne qui est vraiment sortie d'une famille. Merci beaucoup. Nous continuons. Nous pourrons encore dire quelque chose sur lui un peu plus tard. Mais je donne d'abord la parole à notre sœur Mireille.
Oui, merci beaucoup, Papa Céline. Moi, quand j'ai lu le texte aujourd'hui, je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Mais comme souvent je suis gênée, mais je me dis, si je le partage... c'est pour rendre gloire à Dieu aussi. Il s'agit du verset 46 et le verset 48. Moi, personnellement, je vois que Bartimée, lui, il est aveugle physiquement. Mais moi, je me suis retrouvée là-dedans, pas comme aveugle physiquement, mais vraiment spirituellement. Je l'étais. Bon, maintenant, je commence à être libérée réellement, mais... sans le cacher, il y a quelques mois, disons en 3 mois, je ne savais pas si j'allais m'asseoir ici, participer à FIMES pour vraiment essayer de comprendre c'est quoi exactement la parole de Dieu. Oui, je me disais chrétienne, mais je vois à travers FIMES, à travers la méditation de la parole, que être chrétien, c'est beaucoup plus que d'aller à l'église tout le temps. Donc, comme c'est dit dans la parole de Dieu, mon peuple périt par ignorance. Donc, je voyais vraiment que oui, c'est pas assez le temps d'aller juste à l'église et puis ne pas vraiment pratiquer la parole. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu pour ce moment précis que je partage avec vous. Donc, pour le verset 48, ils ont dit « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. » Moi, dans mon cas, je peux dire que, bon, physiquement, personne ne me retient, mais c'est des excuses. Chaque fois, je dis « Ah, j'ai pas le temps de faire ci. Ah, Dieu même sait que j'ai des enfants à occuper. J'ai pas le temps de m'investir. » Mais il a permis cette situation dans ma vie pour me permettre d'ouvrir les yeux. Et chaque fois, quand je participe à FUMES, j'apprends encore de nouvelles choses. Donc, pour donner juste un exemple, la semaine passée, il y a frère, je pense que c'est papa Richard, qui, quand il a intervenu, il dit, « Bien-aimé, je n'ai pas la Bible avec moi, mais je suis au volant. » Donc, j'ai dit, « OK. » Quelqu'un qui, peut-être il n'avait pas le temps, mais il a quand même trouvé le temps d'y participer. Mais moi, parfois, je suis à la maison, mais des simples excuses, je me dis, ah, aujourd'hui, je ne peux pas, peut-être j'ai des enfants, tout ça, mais il y a la technologie qui me permet d'y participer. Donc, c'est juste pour rendre gloire à Dieu pour ma situation actuelle, pour la vie, et merci vraiment à FUMES de m'aider vraiment à ne plus être aveugle spirituellement. Amen.
Amen.
Amen. Quel bon et beau témoignage de notre sœur de voir réellement qu'on peut ne pas être aveugle physiquement, mais être aveugle spirituellement. Que combien d'aveugles nous avons dans nos maisons, nous avons le lieu de travail, nous avons partout, et au lieu de les amener vers le Seigneur, vers la parole, au contraire, nous sommes peut-être un obstacle comme la foule en train d'empêcher ces gens à venir auprès du Seigneur, de venir à la parole, parce que la parole faite chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, ma sœur. C'est un témoignage qui est très édifiant pour chacun et chacune d'entre nous. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le tour de notre frère Thomas. Tu as la parole, mon frère.
Oui, bien-aimé. C'est le verset 46 et 47 qui touche, parce que cet homme-ci est aveugle et à Jéricho. Pour être aveugle, ce n'est pas facile, parce que c'est une ville des grandes affaires du travail, et être aveugle, on n'était qu'un mendiant sur la route. On est à la merci de tout le monde. Mais au verset 47, il est dit que l'aveugle a écouté que c'était Jésus. L'aveugle a écouté qu'il s'agissait de Jésus de Nazareth. Et il va crier, au lieu de crier, « Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. » Il va crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Donc, quand le juif entend fils de David, c'est-à-dire fils du roi des rois, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur, aie pitié de moi. Donc, c'est un aveugle, comme la sœur venait de dire, c'est un aveugle physique, mais il a les oreilles pour entendre sur Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole sur Jésus-Christ. Donc, il a écouté que c'est Jésus de Nazareth, et pour Bartimée, c'est le fils de roi, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est le moment de crier qu'il le sauve. Donc, j'admire la foi de cet homme. Il y a une foule autour de Jésus, mais qui trouve en Jésus peut-être un faiseur de miracles de pain et des faiseurs de miracles de guérison, tout ça. Mais Bartimée croit en Jésus comme le Messie, il crie et Jésus reconnaît qu'on m'appelle là-bas, c'est moi, il reconnaît que quelqu'un croit en moi, que c'est le Messie, naturellement, il va l'appeler. Donc, je suis épaté, émerveillé, flatté et complètement impressionné
par la foi d'un aveugle négligé dans la société, mais lui avait entendu. Est-ce que quand je viens au fumée, j'entends? Ou bien que je trouve que c'est seulement de la routine? Nous, j'ai la grâce de venir écouter que Jésus est Seigneur, crier à lui et trouver le salut en Jésus. Merci.
Amen. Vraiment une grâce et aussi un exemple que cet homme, physiquement aveugle, mais qui avait les paroles qu'il a entendues. Il a entendu de qui? Peut-être que ses parents l'amenaient au temple pour connaître qu'il y a un Messie qui doit venir. Et le Messie vient de la lignée de David. Voilà pourquoi il crie, « Fils de David !» Il est en train de rappeler l'alliance que le peuple a avec l'histoire, avec Dieu. Et cette alliance faisait qu'ils étaient tous dans cette alliance en train d'attendre le oint de Dieu qui doit venir dans la lignée de David. Et ceux qui sont là, la foule, entend une grande merveille qui sort, une déclaration qui sort de cet homme négligé par tous. Mais c'est la grande vérité, fils de David, une très grande vérité, mais qui sort d'un aveugle. Pourquoi ses parents ont fait réellement du travail. Et cet enfant de Timée n'a pas oublié ce qu'il avait retenu un jour, soit à la maison, parce que la parole était proclamée même à la maison, même sur les linteaux, même partout, mais au temple, la parole était lue et le peuple juif connaissait et attendait le fils de David, le roi de Dieu. Merci beaucoup, papa Thomas. C'est très important. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est lui a connu, et même il a entendu. Oh, c'est lui, Jésus. C'est le fils de David. Alors il confesse et ça produit des fruits. Gloire au Seigneur. Papa Richard, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, papa, pasteur Célestin, pour la parole. Toujours dans le verset 46, j'ai vu deux éléments qui ont attiré mon attention. Jésus était là. Bartimée était dans la foule. On parle d'une grande foule. Donc, on peut être perdu dans une grande foule, même devant la présence de Jésus. On peut être perdu dans une grande église, même si on écoute la parole de Dieu. Mais ici, Bartimée a fait quelque chose. Il s'est isolé de la grande foule. Il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous puissions nous isoler de la grande foule. Et c'est ce que Bartimée a fait. Donc, il s'est séparé de la grande foule pour attirer l'attention particulière plutôt de notre Seigneur Jésus. J'ai apprécié vraiment cet acte-là. Et aussi, dans la grande foule, on peut être perdu. Et on dit aussi, il était au bord du chemin. Au bord du chemin, quand nous marchons, pour ceux qui aiment marcher, quand on veut cracher, on crache au bord du chemin. Quand on veut vous jeter, on mange quelque chose, on jette au bord du chemin. Donc, au bord du chemin, il n'y a rien de bon. Tous les déchets, les immondices sont là au bord du chemin. Et quand on n'est pas en communion avec le Seigneur, c'est comme si on est au bord du chemin. Les gens passent, tout le monde passe, mais être assis au bord du chemin n'est pas une bonne place. Donc, on est confondu avec les immondices. Je rends grâce à Dieu que Jésus, pendant son passage, il a fallu à Bartimée puisse faire un effort, non, de quitter le bord du chemin pour attirer l'attention particulière de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.
Merci, papa Richard. Quelle que soit la position qu'on occupe, le Seigneur peut nous écouter si réellement nous avançons avec foi. Nous crions avec foi, nous prions avec foi comme Bartimée. Le Seigneur a écouté les cris de cet homme. Et même les déclarations qu'il a faites, ce sont des déclarations très profondes. Fils de David, aie pitié de moi. Tous nous avons besoin que le Seigneur ait pitié de nous dans l'une ou l'autre dimension de notre vie. Merci beaucoup. Nous continuons maintenant. C'est notre sœur Claudine qui a la parole, maman Claudine.
Merci, papa Célestin. Je vais d'abord remonter au verset 46, la dernière partie, et puis je partagerai les versets 48. Et il est écrit, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire et il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Je vois, c'est vrai qu'il était au bord du chemin, mais il avait choisi un endroit stratégique parce qu'il était mendiant. Il s'est mis juste à la sortie de Jéricho parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient par là pour se rendre à Jérusalem. Donc, il y a aussi le lieu. Et dans nos prières, nous devons savoir quel endroit nous tenir. Ici, lui, c'était un lieu physique. Mais nous devons savoir que pour que le Seigneur puisse nous écouter, nous devons être à un endroit ou dans une position où nous devons attirer l'attention du Seigneur sur nous. Et cette position, c'est la position de sanctification. Nous devons être mis à part pour que quand nous crierons au Seigneur, que le Seigneur nous entende. Et nous voyons que Bartimée a crié, il a prié. Hier, nous avons vu que les enfants de Zébédée ont fait une prière au Seigneur, demandant que le Seigneur leur accorde à être chacun à sa gauche et l'autre à sa droite. Ça, c'était une prière égoïste. Par contre, pour Bartimée, c'était vraiment une prière sensée. Il était dans le besoin. Il avait besoin du salut. Il avait besoin de recouvrir la vie. Il a crié. Malgré la foule, il a persévéré. Quand on cherchait à l'arrêter, il a crié plus fort. Il savait à qui il s'adressait. Parce que, comme l'a dit Papa Célestin tout à l'heure, les parents lui avaient enseigné. Les parents l'avaient amené au temple. Il avait entendu parler de Jésus-Christ et qu'il était le fils de David. Il a crié plus fort, il a persévéré, il a insisté et voilà que la prière de la foi, la prière de la persévérance a arrêté le Seigneur sur son chemin, sur son parcours. Moi aussi, c'est que cela me donne comme interpellation, comme exemple à suivre. Quand je prie, je ne dois pas me relâcher. Je dois continuer à crier au Seigneur jusqu'à ce que j'aie la réponse à ma prière. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Nous devons vraiment pas nous relâcher, de crier, et nous devons regarder notre position, pas nécessairement une position physique, mais notre position spirituelle, et cela peut arrêter le Seigneur. La foule est devenue un obstacle au cri. Nous pouvons aussi avoir des obstacles, frères et sœurs, dans nos prières. Mais la persévérance, parce que cet homme a persévéré. Le texte nous dit, quand on lui faisait taire, il a crié encore plus fort. La version que j'utilise, la parole vivante, dit, mais il n'en continue pas moins à crier des plus belles. Et David, aie pitié de moi. Alors, nous voyons ici la persévérance dans la prière. Nous ne devons pas, à la moindre difficulté dans la vie, stopper, arrêter. Et cet homme, c'est vraiment un exemple de la persévérance. Quand le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Et ça, c'est vraiment un exemple de ce que, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la durée, quel que soit le problème, continuons à persévérer dans la foi. Et cet homme, c'est vraiment un exemple pour nous. Je vais donner bientôt la parole encore à notre frère Thomas, mais je voudrais dire quelque chose sur cet homme, Bartimée. Au verset 46, Il est dit qu'il était le fils de Timée, Bartimée, à son nom, un mendiant aveugle, mais il est assis à sa place habituelle près de la route. C'est le mot à sa place habituelle ou bien au bord de la route qui me fait dire que cet homme, ce n'est pas la première fois qu'il se met sur cette route. C'est une habitude. Il avait l'habitude, on l'amenait sur cette route. Ce n'est pas comme aujourd'hui, avec le développement, que les aveugles se promènent seuls. Mais en ce temps-là, peut-être qu'il y avait les gens qui l'amenaient pour le mettre à la place habituelle. Et à la place habituelle, le texte nous dit qu'il était là pour demander. Pour demander. Donc sa vie à lui, c'était demander. Or que nous savons que quand nous avons une vie où il faut toujours demander, ça c'est pas la vie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si nous nos prières c'est toujours donne-moi et nous n'avons rien à donner, nous sommes vraiment malheureux. Et à la place habituelle, il recevait. Mais en plus qu'il recevait, il était toujours insatisfait. Toujours insatisfait, parce qu'on l'amenait toujours. Mais il va y avoir un homme qui va passer par là pour voir que tout ce que le monde lui a donné n'a pas satisfait à sa vie. La rencontre avec le Seigneur va lui donner la satisfaction totale. Et là, c'est pour joindre le témoignage de notre sœur tout à l'heure, pour dire, nous pouvons être dans le monde, nous pensons que le monde va nous satisfaire, mais le monde, tout ce que le monde peut nous donner, même de l'argent, nous ne pouvons jamais satisfaire le besoin crucial qui est le salut en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Papa Thomas, tu as la parole, s'il te plaît.
Je suis au verset 48, la foule. La foule va empêcher ce monsieur de crier. La foule menace ce monsieur et lui dit, tais-toi aveugle, tu n'as pas le droit de crier au maître. Mais la même histoire est racontée en Luc chapitre 18, au verset 35-36. Il est dit que Bartimée, au fait, a demandé à la foule qu'est-ce qui s'est passé. La foule va lui dire, c'est Jésus de Nazareth. Et quand lui entend ça, il crie, la même foule lui dit, tais-toi, ne crie pas. Et lui crie davantage, et le Seigneur l'entend. Donc moi je me dis, c'est quel type de foule dans laquelle je me trouve? Quelles sont les circonstances dans ma vie qui m'empêchent de crier à Jésus et qui peuvent me décourager à crier? La même foule qui a dit que c'est Jésus de Nazareth, veut que le monsieur Bartimée reste aveugle. Ils ne veulent pas. Ils trouvent que Jésus, c'est pour eux seulement. Lui ne doit pas crier pour la guérison. Ils ne sont pas Jésus. S'il crie, c'est à Jésus qu'il crie. S'il y a la guérison, c'est lui qui reçoit la guérison. Mais la foule a une mission de menacer Bartimée, de le voir aveugle, qu'il reste aveugle, eux, ils peuvent voir, mais au moins, eux, ils voient. Bartimée doit rester aveugle, il doit se taire. Frères et sœurs, je suis vraiment touché qu'un aveugle qui a une chance de voir pour une fois, et qui crie à Jésus, et à qui on a même dit que c'était Jésus qui passait, puisse être empêché par la foule. Et ils pensent qu'ils sont en train de protéger Jésus, mais au fait, ils sont en train de nuire. Que Dieu nous garde d'être une foule vis-à-vis des frères et des sœurs. Un objet de scandale. Et tu es chrétien. Jésus a dit, le scandale, c'est normal que ça vienne, mais malheur à celui par qui il vient. Mieux valait mettre le mulet, au cou de ce monsieur et le jeter dans l'eau que le sort qui lui est réservé. Que Dieu me garde d'être la foule vis-à-vis de ceux qui veulent crier à Jésus. Mais je veux être plutôt un facilitateur, pas seulement de dire aux gens que c'est Jésus qui passe, mais de les aider à crier, même à dire à Jésus que celui-là est aveugle. Il est en train de crier, viens le sauver. Merci.
Merci, Papa Thomas. C'est très profond de voir quel genre de foule nous sommes. La foule qui fait un obstacle pour que les gens viennent au Seigneur, ou la foule qui facilite que les gens viennent au Seigneur. Quel genre de foule sommes-nous? Merci beaucoup, Papa Thomas. Donc, nous revenons encore au Pasteur Richard. Pasteur Richard, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Merci encore, Papa, pour la parole. La prière de Bartimée m'a touché fort. Son problème était, il était aveugle. Quand il vient, quand il a maintenant accès à Jésus, il ne dit pas « ouvre mes yeux ». On l'a amené là au coin parce qu'il avait besoin d'argent. Mais quand il a accès à Jésus, il ne demande pas de l'argent. Il dit « aie pitié de moi ». Ça m'a touché fort. Combien nos prières sont devenues une liste de « donne-moi ceci, Seigneur, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi ». Ici, comme si, du moins Bartimée se livre à Jésus. Il dit, toi tu me connais mieux. Ce que je peux te demander, toi tu connais déjà. Mais tu peux faire au-delà de ce que je demande. Aie pitié de moi. Cette prière couvre un grand nombre de territoires dans sa vie. Et puis cette prière donne à Jésus de faire quelque chose. Donne à Jésus de faire le choix. Au lieu que moi je puisse imposer à Jésus, voici, je suis aveugle, guéris-moi. Mais non, non, non. Toi, Jésus, tu connais. J'ai apprécié cet aspect de prière. Et cela a été ma prière aujourd'hui, que je me présente à Jésus, dire à Jésus de faire ce que lui, là, dans son plan, dans ma vie. Merci.
Merci beaucoup, Papa, Pasteur Richard. Une prière qui laisse la liberté à Jésus vraiment d'agir dans beaucoup de secteurs dans la vie de cet homme. Donc, cet homme nous apprend aussi comment prier quand nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie. Merci beaucoup. Nous revenons encore à notre sœur Claudine. Tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, Papa Céleste. Encore une fois pour la parole. Je vais partager les versets 50, mais je commencerai vers la fin du verset 49. La Bible déclare, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Et nous voyons que c'est la même foule qui l'empêchait, qui, maintenant que Jésus l'appelle, la foule l'encourage et l'aide même à s'élever pour aller vers Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons ici l'attitude de l'aveugle par rapport à l'appel que le Jésus-Christ lui lance. Il jette d'abord son manteau. Nous savons que dans ce manteau-là de cet aveugle, c'était comme c'était sa garde à manger ou son portefeuille. Tout ce qu'il recevait, il les mettait dans les poches de son manteau. Mais voici que quand Jésus l'appelle, la première des choses dont il se débarrasse, c'est ce manteau-là. Parce que ça pesait lourd. Ça pouvait être aussi un obstacle pour lui d'aller vite vers le Seigneur. Dans l'obéissance à l'appel du Seigneur, il se débarrasse de tout ce qui était encombrant. Moi, vraiment, quand je lis ce passage ici à la journée, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut encombrer ma marche pour que je ne puisse pas aller vers toi? Vraiment, nous voyons que cet aveugle, même qu'il était aveugle physique, mais il y avait aussi quelque chose de spirituel, d'un aveuglement spirituel. Alors, il se débarrassa d'abord de tout pour aller vers Jésus. Parce qu'il sait que vers Jésus, il aura la solution. Et au-delà de ce que lui demande même, le Seigneur peut lui en donner. Et ceci, c'est vraiment pour nous aussi un modèle à suivre. Parce que le Seigneur, quand il nous appelle, c'est pour nous combler. C'est pour cela que nous devons d'abord nous décharger, nous libérer de ce qui peut nous empêcher de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup, ma sœur. Nous avons nécessairement chacun, à ce qui les concerne, des choses que nous devons nous débarrasser pour venir vraiment auprès du Seigneur. Sincèrement, nous devons nous regarder pour voir qu'est-ce que je dois réellement me débarrasser. Qu'est-ce qui m'empêche de courir? Qu'est-ce qui m'empêche de venir auprès du Seigneur? Ça, c'est vraiment une introspection que chacun et chacune d'entre nous devons encore nous poser cette question. Quel est mon manteau que je dois jeter pour que le Seigneur vraiment m'accepte le plus rapidement possible? Merci, merci beaucoup. Nous revenons encore à notre sœur Mireille.
Okay. Merci beaucoup, Papa Céleste. Comme j'aimerais dire, c'est le verset 50, mais la sœur a tout dit. Donc, c'était juste pour faire le commentaire sur la spontanéité de Bartimée. Quand il a entendu Jésus, voilà, il t'appelle, il n'a pas hésité, il n'a pas douté. Il pouvait dire, ah, est-ce que c'est vrai, si c'est vraiment, les gens-là ne me trompent pas, si c'est Jésus qui m'appelle. Mais il a vraiment été spontané, il s'est levé, puis il a jeté son manteau, puis il s'est jeté à l'eau, sans toutefois réfléchir. Il a eu une foi d'un enfant, comme les enfants nous font confiance. Ça, je me demande, est-ce que c'est ça, est-ce que j'ai cette foi-là? Est-ce qu'il y a plusieurs fois que Jésus m'appelle, il a vraiment les bras ouverts, et que j'ai pas tendu l'œil, que j'ai pas douté pour me jeter à lui. Donc, après avoir analysé cette parole, c'est ça. Je cherche toujours encore à moi de savoir est-ce qu'il reste quelque chose à faire pour pouvoir vraiment m'en débarrasser tout et aller vraiment vers Jésus totalement. Merci, c'est ce que j'avais ajouté.
Merci de cette ajoute. Nous aussi, le Seigneur nous a appelés, peut-être de plusieurs manières. Peut-être que nous continuons à hésiter et cet homme, il va se jeter vraiment d'un bond. Il va vraiment se jeter vers le Seigneur. Il va se placer vraiment devant lui. Quel vraiment bel exemple. Cette promptitude de venir auprès du Seigneur. Des fois, nous utilisons beaucoup l'intelligence. Nous commençons à trop réfléchir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le Seigneur nous donne ses promesses pour dire « Fais ceci et tu verras le résultat. » Et nous y mettons les sens, les cinq sens pour commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je touche? Et les cinq sens font que la vie chrétienne nous dit, la vie chrétienne se vit par la foi et non par la vue et non par le sens. Merci, ma sœur Mireille. Papa José, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, pasteur. J'apprécie au verset 49, à la fin, la réaction de cette foule qui est instable. Mais ici, la foule a dit la vérité. Au verset 49, quand le Seigneur a dit « Appelez-le », ils appelèrent donc l'aveugle et lui dit « Courage, lève-toi, il t'appelle ». J'aimerais tout simplement m'appuyer sur « il ». Le « il » là, c'est le fils de David. Parce que lui, l'aveugle, il a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis, le fils de David dit, appelez-le. Et ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, il t'appelle. Voilà. Quand nous appelons le Seigneur Jésus, quand nous crions vers lui, il n'est pas insensible à notre appel, à notre cri. Il répond. Il y a toujours un écho. Cet écho peut traîner, tout comme peut-être du tic au tac. Mais finalement, il y a un écho. Bien-aimé, Continuons toujours à crier. Continuons toujours à crier. Il y a un écho. Il y en aura. Voilà. Bien-aimé, j'ai voulu souligner le « Il t'appelle ». Parce que tu as crié et il t'appelle. Merci.
Merci. L'écho est toujours là. Il t'appelle. Et je pourrais dire, frères et sœurs, que nous devons demander au Seigneur pour que la foule qui était avant un obstacle, que cette foule change d'avis pour encourager l'aveugle. La foule va changer d'avis après pour dire « il t'appelle ». Que nos prières soient vraiment des prières de foi comme cet homme, pour que tous ceux qui nous trouvent aujourd'hui rien du tout, tous ceux qui nous méprisent, tous ceux qui pensent que c'est fini avec nous, comme l'aveugle était abandonné, un chiffon abandonné de la société, aujourd'hui c'est la foule qui change d'avis pour dire il t'appelle. Que la main vraiment du Seigneur soit sur chacun de nous, pour que le monde qui nous regarde avec un œil, qu'il voit combien Dieu est vivant dans notre vie. Amen.
Amen.
Oui, papa Thomas, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, je suis au verset 51. Quand l'aveugle se présente auprès du Seigneur, le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Un aveugle qui ne voit pas, on dirait que le Seigneur aurait pu tout simplement dire, je comprends, tu es aveugle, je te guéris, au revoir. Mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse, jeune homme, pour toi? Et il va répondre, Seigneur, que je recouvre la vie, que je vois. Il a demandé avec précision et le Seigneur lui a demandé ce qu'il voulait. Donc je me dis que parfois ça prend de demander exactement ce qu'on veut. Parfois Dieu veut nous donner ce que réellement nous voulons, ce que nous désirons. Puisque la Bible dit qu'il est prêt à nous donner ce que notre cœur désire. Parfois, c'est important que dans nos prières, nous soyons précis pour dire, Seigneur, voici ce qu'exactement je veux. Parce qu'ici, c'est un exemple où le Seigneur, le monsieur avait crié au Seigneur pour qu'il ait pitié de lui, et il a entendu. Mais, malgré qu'il y ait la pitié en question ne suffisait pas. Le Seigneur demande une précision de ce qu'il veut. Et il lui dit exactement ce qu'il veut. Et le Seigneur va conclure qu'il puisse s'en aller parce que sa foi l'a guéri. C'est la foi de Bartimée en Jésus-Christ, le roi de rois, le Messie, qui le guérit. Donc je me dis que c'est important de croire aux promesses du Seigneur où il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible où Dieu veut nous donner ce que notre cœur désire. Je pense que c'est quand même important de temps en temps de venir au Seigneur et d'être sincère, de nous dire exactement le désir de notre cœur. Merci.
Voilà, papa Thomas, merci beaucoup. C'est vraiment important de venir auprès du Seigneur, de lui dire le désir de notre cœur, parce que le Seigneur connaissait qu'est-ce qu'il avait besoin, mais il vient pour, dès qu'il arrive, lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est une question qui est posé à chacun et chacune d'entre nous, qu'est-ce que tu veux? Et j'aimerais dire quelque chose à ce dernier verset. Le Seigneur va dire, il regarde l'aveugle, il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Le Seigneur ne lui dit pas, tu as crié beaucoup, tes cris t'ont sauvé. Non. Ou c'est le volume de ta voix qui t'est guéri. Non, c'est la confiance que tu as mis en moi qui t'a sauvé. La foi cette ferme assurance que tu es capable de que je te guérisse, qui te sauve. Oh, ça, c'est très interpellant, frères et sœurs. Parce que des fois, nous pensons que nous devons crier très fort pour que le Seigneur nous entende. Des fois, nous pouvons crier fort, mais tout simplement, crions fort parce que nous avons peur. Nous crions fort, nous crions très fort, nous avons les sociétés ne peuvent rien nous faire, ceci. Mais dans cette prière, tout simplement, nous crions fort parce que nous avons peur. Ce n'est pas parce que nous avons vraiment confiance en Dieu.
Amen.
Merci, merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière intervention avec notre sœur Mireille.
Merci. Je vais être bref. Ici, j'aimerais parler du dernier verset 53. Il dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est le suivi Jésus dans le chemin qui m'a impressionné parce que j'ai vu la gratitude de Bartimée. Il a été reconnaissant. Il pouvait dire, oh, j'ai recouvré ma vie, laisse-moi aller. Pendant tout ce temps, je ne sais pas combien de temps il a été aveugle, mais il pouvait dire, maintenant que j'ai recouvré ma vue, laisse-moi aller profiter de tout ce que je n'avais pas vu. Mais il a pris la décision de suivre Jésus dans le chemin. C'est ça qui m'a interpellée. Est-ce que quand le Seigneur me fait des choses, est-ce que quand je suis malade, le Seigneur me guérit, quand je finis, comment est-ce que je suis reconnaissante envers mon Seigneur? Est-ce que je le suis vraiment? Ou bien, est-ce que quand je ne suis plus dans le besoin, quand j'ai plus mal, ou bien quand j'ai pas de problème, j'oublie Dieu. Et quand je vais avoir des problèmes, je serai dans le besoin, j'écris vers lui tout le temps, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et quand il finit de me sauver, voilà, c'est fini. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup, c'est profond, ma sœur. Combien de fois n'avons-nous pas demandé au Seigneur de nous donner ceci, de nous donner cela, mais quand cela est accordé, nous oublions le chemin de l'Église, nous oublions le chemin de la prière, nous oublions le chemin de la parole. Et Bartimée, c'est vraiment un exemple pour nous. Quand il est guéri, c'est vers le Seigneur qui va suivre. Pourtant, il connaît le chemin, parce que regardons cet homme, avant il voyait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a perdu la vue. Quand il vient auprès du Seigneur, il dit, Seigneur, je vais revoir encore, je vais recouvrir la vue. Pour dire, il connaissait le chemin pour aller chez lui à la maison. Mais il ne rentre pas, il va suivre le Seigneur. Quand le Seigneur nous a bénis, quelle est notre attitude? C'est d'abandonner le chemin du Seigneur ou réellement nous continuons à nous affermir sur le chemin du Seigneur. Et ça, c'est vraiment encore une grande leçon que notre sœur nous montre à la fin. Il est en train de suivre le Seigneur. Il est en train de suivre le Seigneur. Rappelons-nous la guérison de 10 lépreux. Un seul est revenu auprès du Seigneur. Et le Seigneur était étonné pour voir, mais où sont les 9 autres? Pour dire, le cœur de Dieu est touché aussi quand on revient à lui. On lui est reconnaissant. On vient le servir en reconnaissance de ce qu'il a fait pour chacun, pour chacune. Mes sœurs, un texte court, mais un texte extrêmement riche qui nous parle de notre vie, qui nous parle de notre être intérieur, qui nous parle de la prière, qui nous parle de la foi, qui nous parle de notre manière de vivre avec le Seigneur, même de notre manière de vivre avec les autres. Est-ce que nous sommes là en train d'intercéder pour les autres, d'amener les autres au Seigneur, où nous sommes un obstacle avec notre vie, que les autres viennent au Seigneur? Quelle interpellation dans ce texte! Vraiment une école de foi, une école de fermeté, une école de la prière, une école de tout pour la foi chrétienne. Mm. Bénissons vraiment le Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps pour lire les commentaires. Nous allons maintenant, les textes de demain, nous allons continuer avec les livres de Marc. Nous serons au chapitre 11, Dieu voulant. Du premier verset jusqu'au verset 11e. nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent en direct à la radio depuis Missouri, depuis Alberta, depuis le Québec. Soyez bénis, vous qui aimez la parole de Dieu comme nous. Faites-en une habitude comme tous ceux qui aiment le Seigneur. Bartimée, l'habitude qu'il avait, c'était de venir mendier, mais il a fait une autre habitude, c'est celle de suivre le Seigneur sur le chemin. Peut-être que quand on était en train de crucifier le Seigneur à Jérusalem, il était là, parce qu'il était en train de suivre aussi le Seigneur. Je ne sais pas si il était de la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le », on ne sait pas. gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous arrêtons là avec toutes les richesses. Nous allons dormir très, très rassasiés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons demander à notre frère Thomas de nous recommander à la grâce du Seigneur.
Seigneur, merci d'avoir ramené le pasteur Célestin du voyage et il nous a dirigé aujourd'hui. Merci, Père, pour cette étude. Merci pour la participation de nos sœurs. Merci, Seigneur, pour des vérités que tu nous révèles à travers, Seigneur, nos sœurs et nos frères. Merci, Dieu, pour ces nombreuses leçons que nous avons apprises aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à ne pas négliger les boiteux, les gens qui souffrent, les gens qui ont des conditions difficiles dans la vie. Tant de Père, donne-nous la compassion pour ceux qui ont moins que nous. Que nous soyons, Seigneur, des facilitateurs pour accéder à toi et pas des empêcheurs. Tendre Père, comme il y a beaucoup de situations, Seigneur, qui nous freinent, accorde-nous aux finesses d'être des gens qui crient à toi, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, donne-nous de venir, Seigneur Dieu, à l'intercession, à la prière, Seigneur, crie à toi, que notre vie soit une vie de cri à toi, Seigneur, pour sauver nos vies et ceux des autres autour de nous. Tendre Père, quand nous aurons crié à toi et quand tu nous auras appelé, Seigneur, que nous soyons des gens prêts à encourager les autres à venir au Seigneur. Quand nous venons à toi, Seigneur, et que tu nous demandes ce que nous voudrions, nous voulons que ce que nous cherchons soit, Seigneur, conforme à ta volonté. Nous voulons, Seigneur Dieu, ici au FIMES, être transformés. Une sœur nous a donné la vérité que nous devons laisser nos manteaux et courir auprès de toi. Seigneur, enlève, Seigneur, ce qui nous empêche de courir dans la voie du Seigneur, pour que, Seigneur Dieu, nous fuyions les péchés, que nous vivions une vie de sanctification. Tant de temps, nous avons appris que c'est Bartimée, après avoir recouvré la vue, il n'a pas couru dans ses propres affaires, dans sa famille, et dire aux gens, vous vous moquez de moi, ha ha, voilà maintenant moi je vois. Non, il a suivi Jésus sur le chemin. Père, fais de nous des suiveurs de Jésus sur le chemin. Fais de nous, Seigneur Dieu, des fidèles à notre poste au FIMES. Nous voulons, Seigneur, être fidèles chaque jour à méditer ta parole, parce que Bartimée a écouté que Jésus, c'était Jésus de Nazareth. C'est comme ça qu'il a crié, parce qu'il avait écouté du Christ. Que le FIMES soit ce cadre pour nous d'écouter la parole. Donne-nous les moyens de faire écouter la parole à la radio, dans l'Internet, à la télévision. Donne-nous les moyens de payer les factures, Seigneur Dieu, de fonctionnement de ces FIMES. Donne-nous la joie, l'amour de cette œuvre qui continue à nous aider à méditer ta parole. Oh Dieu, bénis les FIMES. Oh Dieu, bénis nos vies. Nous qui avons écouté ta parole et ceux qui vont l'écouter, que ces vérités changent nos vies. Bénis ton serviteur, le pasteur Célestin, pendant qu'il dirige les FIMES. Continue à l'entourer, Seigneur Dieu, de ta grâce, de ta bénédiction, des amis, des frères, des partenaires, pour que cette œuvre aille au devant et qu'aucune personne dans la foule ne puisse nous empêcher de travailler pour toi. Bénis chacun de nous. Ceux qui sont venus, Seigneur, écouter, ils étaient silencieux, mais ils ont écouté fidèlement pour recevoir. Bénis-le. Ceux qui écouteront la parole après, bénis-le. Seigneur Dieu, nous qui sommes entrés, bénis-nous. Seigneur Dieu, demain encore, nous voulons être fidèles chaque jour que cette œuvre de finesse aille de l'avant. Merci pour ce que tu as accompli dans les camps bibliques. Merci pour ce que tu vas accomplir maintenant jusqu'au prochain camp à Calgary. Ouvre des portes, bénis-nous, soutiens-nous. Mais que cette parole change nos vies pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
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 Merci bien pour la prière. Papa Thomas, que la grâce et la paix abondent dans nos maisons, frères et sœurs. Allons-y en paix. Amen.
Amen. Amen.